André-Michel Essungu, bonjour.
Bonjour Martial.
Les attaques et les actes des résistances communautaires contre les équipes engagées dans la riposte à Ebola se multiplient dans certaines zones du Nord Kivu et de l'Ituri. Quel rôle la désinformation joue-t-elle dans ce climat de méfiance et de violence?
La désinformation agit comme un accélérateur de la peur et de la colère et elle transforme les agents de santé qui viennent protéger la population en personnes suspectes. Et des rumeurs peuvent donc présenter Ebola comme une invention politique, une opération destinée à obtenir des financements ou encore accuser les équipes médicales de propager volontairement la maladie. Ces récits trouvent un terrain favorable lorsque les populations ont déjà vécu l'insécurité, comme c'est le cas dans plusieurs régions de l'Est, qu'elles ont vécu une relative absence des services publics depuis très longtemps ou alors quand des interventions extérieures sont insuffisamment expliquées et donnent une justification, cette rumeur, au refus des soins, à la dissimulation des malades ou aux attaques contre les centres sanitaires. Donc la désinformation n'est pas seulement un problème de communication, elle devient un véritable risque sanitaire et sécuritaire car chaque attaque ralentit, empêche la prise en charge.
Quelles sont les fausses informations qui circulent le plus souvent lors d'une épidémie comme Ebola et pourquoi parviennent-elles à convaincre une partie de la population?
Les rumeurs les plus fréquentes affirment qu'Ebola n'existe pas, que les chiffres sont inventés, que la maladie serait un empoisonnement ou que les équipes de riposte chercheraient à gagner de l'argent. D'autres fausses informations concernent les centres de traitement, les enterrements sécurisés ou les personnes guéries, parfois injustement présentées comme toujours et encore dangereuses. Ces récits convainquent parce qu'ils proposent des explications assez simples et plutôt émotionnelles à une maladie complexe et effrayante. Ils progressent également lorsque les informations arrivent tard ou alors sont trop techniques ou ne sont pas données dans les langues réellement parlées par les communautés. Et enfin, lorsqu'une institution n'est pas déjà, du point de vue des populations, digne de confiance, même une information scientifiquement correcte peut être rejetée. La confiance dépend donc autant du messager que du message.
Au-delà du démenti des fausses informations, quelles stratégies les autorités sanitaires, les médias et les leaders communautaires devraient-ils mettre en œuvre pour rétablir la confiance avec les populations?
Il faut déjà tenter de comprendre comment et par qui la désinformation circule au sein des communautés. Quels canaux utilise-t-elle en ligne et hors ligne et quelles sont les techniques qui lui permettent de passer si facilement, poser un diagnostic. Du point de vue de l'action, il faut ensuite passer d'une communication souvent verticale et descendantes à une véritable conversation avec les communautés pour écouter leurs préoccupations et reconnaître des erreurs éventuelles et répondre rapidement aux questions. Les autorités devraient communiquer rapidement, régulièrement, dans un langage simple, en expliquant ce qui est connu, ce qui ne l'est pas et pourquoi certaines mesures sont nécessaires. Il faut se souvenir, par exemple, que dans le cas de la pandémie de la COVID, dans une ville comme New York qui était très affectée, le gouverneur de l'État de New York tenait tous les jours à midi un point de presse qui était le lieu de la diffusion de l'information officielle crédible et c'était un rendez-vous quotidien pour tout le monde et il y avait également d'autres manières de procéder. Les médias, quant à eux, doivent plus que jamais vérifier avant de diffuser, inviter des spécialistes capables de parler clairement et éviter les titres alarmistes qui renforcent la peur. D'autres relais, mais plus que des relais qui devraient être intégrés dans la réponse, sont les chefs coutumiers, les responsables religieux, les associations de femmes, de jeunes, les survivants et d'autres. Enfin, il faut, dans ces cas-ci, montrer des preuves concrètes, personnes guéries, de familles accompagnées, d'enterrements réalisés dignement et de mécanismes permettant de signaler des abus. La confiance se construit essentiellement par la transparence dans la communication, mais dans l'action, la proximité et des actes cohérents.
Quel rôle les citoyens eux-mêmes peuvent-ils jouer pour freiner la propagation de la désinformation et contribuer à protéger les équipes de la riposte?
Ne pas partager une information qui provoque la peur ou la colère. Chacun peut se demander et peut demander à quiconque diffuse des nouvelles qui n'ont pas l'air très crédibles, qui est la source? Cette information est-elle confirmée et pourrait-elle mettre quelqu'un en danger? C'est trois questions toutes simples. Et les citoyens peuvent aussi signaler rapidement les symptômes ou les décès suspects, coopérer dans le suivi des contacts et éviter de cacher une personne malade par peur de stigmatisation.
André-Michel Essungu, merci.